Bonjour et bienvenue dans Résonance sur Tropic FM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Simon Deborne à la technique. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir un reportage que nous avons enregistré le vendredi 7 septembre dernier au Théâtre de la Croix-Rousse, dans le cadre d'un concert de soutien aux Mômes Ludis. Alors les Mômes Ludis, nous en avons déjà parlé sur cette antenne, notamment grâce aux chroniques d'Amandine. Et pour en évoquer quelques mots, cette association vise à promouvoir la pratique musicale dans les écoles. Donc le concert qui avait été organisé ce vendredi 7 septembre est un peu particulier, puisque pour une fois, ce sont les adultes qui sont sur scène et pas les enfants. Donc nous avons rencontré tout d'abord Gérard Autelin, formateur, musicien intervenant, président des Mômes Ludis, qui a pu évoquer le parcours et les missions de cette association unique et originale en France et le pourquoi de ce concert.
Eh bien, vous m'avez cité comme musicien intervenant dans la présentation. Eh bien, c'est très juste, c'est très bien, j'en suis très content. Et depuis que je suis à la retraite, c'est en fait une des activités principales que je continue à exercer, non pas comme je le faisais il y a 30 ans, mais au moins ça permet de comprendre l'origine de ces Mômes Ludis. Quand j'étais musicien intervenant, j'étais essentiellement à l'île d'Abo, qui était la ville nouvelle au nord de l'Isère. Moi, je travaillais aussi dans l'Ain, évidemment, à Bourg-en-Bresse et avec d'autres villes ou villages, avec toute une équipe qui était celle de clavicorde. On était une dizaine à peu près. Et on faisait beaucoup de créations avec les classes, avec les enfants des écoles à droite, à gauche, et un peu de tous âges. Et puis, quand on fait des créations sans avoir la possibilité de se renouveler, on prend vite peur d'enfermer finalement les enfants dans des espèces de canaux qui sont toujours nos façons de voir, les pratiques, les habitudes, et finalement de figer. Ce qu'on appelle création devient une espèce de nouvelle habitude, de nouveau conformisme, voilà. Donc cette peur-là a suggéré de s'adresser à des compositeurs pour qu'ils écrivent eux aussi des pièces que pourraient jouer les enfants, donc des compositeurs contemporains en chair en os, qu'on connaissait d'ailleurs un certain nombre parce qu'on avait travaillé avec eux. On les avait fait venir à Bourg pour des sessions. Une des premières, par exemple, qui a écrit pour les Mômes Ludis, est venue à clavicorde à Bourg pour nous former tous les animateurs. C'était Claire Renard, qui vit toujours, qui compose toujours, qui est venue aussi, je crois, enfin, qui connaît bien les percussions de Tréfort et Alain Goudard, qui à l'époque était d'ailleurs dans l'équipe de clavicorde et on était tous ensemble. Et donc, on a eu de cette manière-là un grand nombre d'œuvres, de pièces qui ont complètement renouvelé le répertoire des pratiques musicales dans les écoles. Et les Mômes Ludis sont nés de là. Alors le premier grand concert a eu lieu en 1985 à l'île d'Abo, enfin exactement à Villefontaine qui faisait partie de la ville nouvelle de l'île d'Abo. Beaucoup de concerts se sont faits ensuite à partir de là, à l'île d'Abo, dans d'autres villes. Et puis, il y a un relais très important qui a été pris par Sonora, qui était le centre culturel, le théâtre, on va dire, de Mâcon, avec Charles Praget, et qui a été, lui aussi, un ardent défenseur de cette pratique. Et donc, les deux sites étaient importants parce que tous les deux, que ce soit l'île d'Abo avec Serge Maestro, Rémi Galland d'un côté, que ce soit Mâcon avec le théâtre, avec Charles Praget, c'était des centres culturels, des lieux de diffusion, une scène nationale comme à Mâcon ou une scène conventionnée comme à Villefontaine, qui disaient oui, ça c'est de la musique, c'est un concert, ça vaut la peine de le valoriser, et pas simplement parce que c'est de la pédagogie avec des enfants, mais parce qu'artistiquement les pièces ont une réelle valeur et méritent d'écouter. Donc les Mômes Ludis sont partis comme ça. Sur un besoin de nourrir la pratique musicale dans les classes, dans les écoles.
Et puis aussi sensibiliser à la création.
Alors, bien sûr, à partir de là. Alors oui, tout à fait. Alors d'autant que quand on dit musique contemporaine, on a toujours une idée un peu de choses compliquées, bizarres, avec des sonorités imprévues, un peu criarde, ou je ne sais pas comment, enfin qui grince, qui donne du mal aux ongles, enfin, je ne sais pas comment, bref, c'est grincer des dents. Alors qu'en fait, quand on parle musique contemporaine, c'est tout ce qui se fait en musique par des contemporains, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas morts, qui vivent de leur métier, plus ou moins bien. Donc, très vite, avec Villefontaine, donc l'équipe de l'île d'Abo, on a élargi les musiques contemporaines, initialement, comme ça, tout à fait d'ailleurs, résonance contemporaine, on va dire, voilà, qui est quand même beaucoup dans ce genre-là. On l'a élargi à la chanson, donc il y a eu un autre répertoire. Après, on l'a élargi évidemment au jazz. Alors pareil, beaucoup de pièces de jazz, parce que rien n'est plus contemporain que le jazz qui passe son temps à improviser. Et puis les musiques traditionnelles qui sont aussi un lieu non pas de folklore, mais de réinterprétation d'un patrimoine, et où les musiciens traditionnels passent leur temps à revisiter, à faire revivre, quitte à modeler beaucoup de choses, à remodeler beaucoup de choses dans le patrimoine. Et la dernière étape qu'on est en train de vivre, on va dire, ces années-ci, ça vient de commencer, alors c'est tout nouveau, c'est tout ce qui est en musique actuelle, donc la musique à l'école et au collège, avec les outils numériques, les ordinateurs, et tout le bazar électronique qui fait la joie des enfants et des adolescents, et dans laquelle ils sont très performants, et ça va. Donc on n'a pas grand-chose à leur apprendre sur le fonctionnement, par contre, on peut leur apporter quand même, je crois, quelques directives dans le domaine de la composition musicale et de la création personnelle. Donc, on est bien dans un domaine complètement créatif. Voilà.
Donc, un répertoire riche aussi.
Oui, et d'ailleurs, moi, j'ai assisté déjà à quelques répétitions. Ce qui est passionnant, bon, je connais forcément la plupart des pièces, on doit en avoir 220, quelque chose comme ça, au répertoire, au catalogue. Donc, je ne les connais pas toutes au même niveau, mais enfin, je les ai toutes entendues au moins une fois. Ce qui est extraordinaire, c'est pas parce qu'il y a une partition, donc avec des choses écrites, qu'elles sont jouées toutes les fois de la même manière. Et c'est là où il y a une recréation aussi, chaque fois, avec les enfants qui apportent leur idée de mise en espace, de je sais pas quoi, de jeu, de joie. C'est toujours très nouveau, et ça, c'est une chose importante qu'on a peine quelquefois à faire comprendre dans des cénacles un peu plus académiques, j'allais dire, parce qu'ils disent oui, partition, donc ça veut dire que on fait toujours la même chose, et pas du tout. Et ça c'est étonnant. Ça, c'est toujours très drôle de voir la variété des interprétations.
Et donc, justement, c'est ce qu'on va pouvoir voir ce soir pendant ce concert. Alors, comment un peu est née cette idée de faire chanter ou jouer des musiciens adultes, puisque habituellement, c'est plutôt les enfants qui jouent le répertoire de Moody?
Alors, il y a deux choses. Il y a une raison économique, et puis il y a une raison, comment est-ce que je vais dire? Je vais dire militante, un peu, oui. Alors, raison économique, d'abord parce que ça a été conçu comme un concert de soutien. Et un concert de soutien parce que, comme toutes les associations, budget ratiboisé, voire supprimé, etc. Et que, je pense que je n'ai pas besoin de faire de dessin à résonance contemporaine, qu'une grosse part du budget, c'est évidemment le fonctionnement et donc le salariat. Et que si on fait des économies sur le salaire en demandant à des bénévoles, on fait tout à fait autre chose, mais on ne travaille pas de la même manière. Et donc, s'il n'y a pas des professionnels pour faire tourner une maison, répondre au téléphone, conseiller, recevoir, inviter, s'occuper d'un site internet, agrafer les partitions pour les vendre, enfin, tout ce qui fait vivre l'association. Et donc ça, c'est notre premier problème. On est toujours de 6 mois en 6 mois, et on ne sait jamais si dans 6 mois, on ne sera pas obligé de faire un licenciement économique. Voilà. Si on fait un licenciement économique, ben c'est la fin. Voilà, c'est-à-dire que ça sera la fin de Moumeloudi. Alors, le répertoire existe, qui est déjà fait, continuera à exister, à tourner, plus ou moins bien. Encore que, faudrait-il qu'il y ait un repreneur, ce qui n'est pas du tout évident. Et puis, de toute façon, il n'y aura plus de création, il n'y aura plus de commande, il n'y aura plus rien. En tout cas, pas du même niveau. Parce que ça n'intéresse aucun professionnel de l'édition. On a beaucoup cherché des maisons comme Durand, Salabert, plein d'autres. Ça ne les intéresse pas. Alors, s'il y a quelques pièces qui les intéressent, mais les autres, ça ne les intéresse pas. Donc, ils n'en ont aucune envie. Donc, la dynamique ne sera pas reprise. Alors ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est parce qu'on se bagarre, et notamment avec le ministère de la Culture, pour faire considérer ce répertoire et ce catalogue de pièces Mamouloudi comme un répertoire artistique et non pas pédagogique. C'est-à-dire que sous prétexte que ça s'adresse à des enfants, alors on est dans le pédagogique. Alors que si on prend le répertoire classique, on peut faire jouer à des enfants scènes d'enfants de Schumann, on peut en faire le Trio de Grandeur, des pièces de Bartok, enfin de plein de gens. Et c'est pas pour autant que c'est une pièce pédagogique. Alors, si tout est pédagogique, mais même les pièces les plus difficiles sont pédagogiques, les pièces les plus simples, y compris de Mozart, à vous dirais-je maman et toutes les variations, ça peut être très pédagogique, parce qu'on peut apprendre des tas de choses derrière, et notamment le sens de la variation, etc. Très bien. Mais c'est quand même aussi une œuvre artistique, une œuvre musicale. Et l'alphabet de Mozart, c'est pareil, on peut le faire chanter à des enfants, c'est pas pour autant que c'est une... Donc, on voulait dire, ces pièces sont intéressantes, y compris pour des adultes, qui prennent un vrai bonheur, et moi j'ai vu les répétitions, la joie avec laquelle ils interprètent ces pièces, alors ça va. On est convaincu que pas besoin d'en rajouter une pelletée, on voit que les adultes, non seulement ils prennent plaisir, mais font de la musique avec. Donc ça, c'était aussi notre... Alors, c'est pas pour autant que ça va convaincre nos sous-ministres et nos adjoints de ministres et nos délégués de ministres qui parsèment la France. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est au moins une preuve dont on voulait qu'on voulait faire partager un peu collectivement.
Et comment a été choisi le programme, les musiciens?
Alors, il y a des pièces dans le catalogue qui tournent beaucoup, beaucoup, très souvent. Donc c'est très bien. C'est les pièces qui, sur le papier, paraissent le plus facile d'accès. Là encore, ça peut être un leurre. Et puis il y a des pièces, parce que quand on les ouvre, on dit, voilà, ça a l'air compliqué. Et donc, on ferme vite. Et... on a choisi des pièces qui apparemment, entre autres, alors c'est pas uniquement le motif du choix, mais entre autres, des pièces qui semblent compliquées, et on a voulu montrer qu'en fait, une fois qu'on les voit, mais c'est faisable. Et c'est faisable par des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du travail, parce que même les adultes, quand on les a montés, ça demande au moins un ou deux jours de répétition. Là, ceux que vous avez vus, ils ont passé deux jours. Nous, on va en faire une ce soir sur Robert Pascal. On a passé deux jours pleins à répéter entre adultes. Donc, pour les apprendre par cœur, donc ça veut dire qu'il y a du travail. Mais c'est faisable. Donc, on a choisi des pièces qui sont moins jouées, qu'on joue plus rarement, et en même temps, en variant, en essayant de balayer un peu large. Donc il y a depuis le rap, jusqu'à la musique, les musiques du monde. La dernière pièce, avec le premier groupe qui a répété cet après-midi, ça vient d'Afrique du Sud, et ça a été fait dans le cadre des temps chauds. Et donc c'est une pièce que Mamouloudi a pris les temps chauds pour en faire le décryptage, et donc la transformer en partition, alors que c'est des musiciens traditionnels qui n'écrivent absolument pas la musique, rien du tout, quoi. Et puis, ils l'ont réinterprété vocalement, sans instrument, et voilà. Donc, il y a un peu, donc ça balaye large. Il y a du parler-chanté, il y a du chanté, il y a de la position chorale, tout à fait, alors très, très chorale, très... Voilà. Et puis, on a voulu varier, donc celle d'Alain Goudard a cet intérêt qu'elle saurait faire... D'abord par le texte et la manière dont il a écrit, et puis par le lieu où elle a été donnée et la commande dont a été l'occasion, celle d'Alain Goudard, et plus, c'est pas une pièce baroque, mais c'est une référence à un style qui est celui pratiqué en Brunet. Donc ça me paraît, voilà, donc il y a des choses un peu variées. Alors il y a aussi la dernière pièce qui a été créée du catalogue, qui vient de sortir et qui a été créée au mois de juin à Saint-Étienne, c'est la dernière commande qu'on a faite, donc on l'a mis au programme. Voilà. Donc c'est un peu une espèce de patchwork voilà, pour tenir compte de différents paramètres.
Notre présence au Théâtre de la Croix-Rousse nous a permis aussi de rencontrer Jean Lacornerie, un directeur engagé dans la diffusion de la musique dans son théâtre et qui développe des actions pour permettre l'accueil du jeune public et favoriser la rencontre et la pratique artistique des différents publics accueillis au théâtre.
Bonjour.
Voilà, donc merci de nous accueillir dans votre beau théâtre. On est ravis d'être ici aujourd'hui pour parler aussi avec vous de ce concert Montmulti qui a lieu ce soir. Voilà, donc pour vous, quels sont un petit peu les liens déjà qui existent avec Montmulti, avec le CFMI, pourquoi ce concert ici au Théâtre de la Croix-Rousse?
Ah bah, il y a deux raisons. Il y a une chose qui est liée au projet que j'ai ici à la Croix-Rousse, qui est que je cherche à développer les liens entre un théâtre et la musique, et que ces liens-là sont bien sûr à travers notre programmation, des spectacles qu'on propose, des créations qu'on peut aussi produire, mais aussi le travail qu'on peut faire avec certains publics. Et bon, les Montmulti, c'est plutôt un public scolaire, hein, mais voilà, donc ça m'intéresse de montrer ici le travail qui peut se faire dans les classes. Ben, parce que l'idée de ce concert, c'est de dire, bon, ça se passe en principe dans les classes, on va voir, là, c'est-à-dire souvent plutôt joué par les enfants, et là, on fait une espèce de catalogue de ce qui a pu se faire au cours des années, et montrer au public qu'il y a un travail de création qui se fait et qui peut se faire dans les écoles. Donc de ce côté-là, je pense que c'est intéressant que ça se passe ici, dans la mesure où c'est un théâtre qui cherche les liens entre le théâtre et la musique. Bon, que souvent d'ailleurs, en plus, dans ces créations, il y a un lien avec le théâtre, puisque voilà, très vite il peut y avoir une idée scénique qui vient avec les partitions. Puis après, l'autre raison, c'est plus une question de fidélité finalement, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens intervenants quand j'étais directeur du théâtre de la Renaissance, et que donc un certain nombre de ces créations ont eu lieu dans mon théâtre, et donc du coup je connais bien un certain nombre de gens qui interviennent ce soir, et quand ils m'ont demandé, Alain de Seigne m'a demandé si on pouvait accueillir ce concert, bien sûr je connaissais bien leur travail et je trouvais que c'était intéressant effectivement de donner une face publique, parce qu'effectivement le problème de tout ce travail qui se fait dans les classes, c'est que ça se passe dans la classe et personne n'en sait rien, et c'est pas très grave dans le sens où c'est important, c'est que ça se passe bien dans la classe, et en même temps c'est important que ça se sache, parce que on est à un moment où on se pose des questions sur les budgets et est-ce qu'il faut dépenser de l'argent pour ça, et qu'il faut dépenser de l'argent, voilà, et que il faut dépenser de l'argent, je veux dire, pour que les enfants puissent comprendre, créer. C'est essentiel dès le départ, puisque souvent ces créations-là sont quand même plutôt pour les primaires, peut-être même que pour les primaires, je ne sais pas. Enfin, voilà, donc voilà l'idée de ce concert.
Et donc, cadre de l'accueil des publics au sein du Théâtre de la Croix-Rousse, vous avez aussi une volonté d'accueillir à la fois un large public et puis également d'amener aussi à la culture et puis à la création artistique les publics plus spécifiques, comme les publics en situation de handicap.
Oui, c'est-à-dire, je pense que c'est une manière de rentrer en communication, en contact, rencontrer les gens. Je pense que la meilleure façon de faire quand on essaie de trouver un terrain ensemble, c'est de travailler sur des choses, qu'on fabrique ensemble. Donc, du coup, je pense que la pratique, au fond, la pratique amateur, quel que soit d'ailleurs le niveau des amateurs dont on parle, doit être développée dans les théâtres. Alors, après, la question, c'est comment, à partir de quel projet, voilà. Donc, il se trouve que là, j'ai fait, on vient de finir, ça s'est passé au mois de juin, un projet qui était de proposer à toutes sortes de groupes, de gens différents, qui sont soit en effet des gens qui ont des difficultés de santé, des difficultés économiques, des difficultés, je dirais, culturelles, dans le sens où c'est des gens qui arrivent en France, voilà, qui ne parlent pas français, enfin bon, bref, de leur proposer de travailler sur un projet commun et que ce projet soit joué sur la scène du théâtre. Et donc, j'ai proposé, en fait, à tous ces groupes de faire une variation sur West Side Story. Sauf qu'on avait monté West Side Story dans la saison, et l'idée était de dire, voilà, dans West Side Story, il y a un certain nombre de thèmes dont vous pouvez vous emparer, qui sont... il y a plein de choses possibles, enfin, il y a comme lecture possible, des choses, je veux dire, genre... il y a des choses sur l'immigration, il y a des choses sur l'intégration, il y a des choses sur la violence urbaine, il y a des choses sur le rapport entre les hommes et les femmes, les filles qui doivent rester cloîtrées chez elles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent concerner beaucoup de gens. Donc l'idée, c'était de leur dire, voilà, il y a tous ces thèmes, construisez chaque groupe une création à partir de ça. Évidemment, en proposant à chaque groupe un intervenant artistique, qu'il soit musicien, danseur, acteur, écrivain, enfin bon, voilà, un peu toujours. Et on a fait une espèce de mosaïque de ces différentes propositions qui ont fait un spectacle. Et ça a concerné quand même 200 personnes. Et là-dedans, évidemment, ce qui m'a intéressé, c'était de mélanger. C'est-à-dire qu'on avait aussi bien, effectivement, des gens qui pouvaient venir qui étaient en hôpital de jour, ou des gens qui étaient un groupe d'avocats qui développe la pratique du théâtre, ou un chœur, le chœur de Bernard Tétu, et des enfants primo-arrivants. Enfin bref, voilà. Donc on pouvait, voilà. Finalement, au bout du compte, je pense que si on voyait le spectacle, je n'étais pas sûr qu'on pouvait identifier qui était qui. Et que chacun, on voyait des gens qui avaient fait ensemble un spectacle. Voilà. Donc ça, c'est une chose que j'aime bien faire. Évidemment, ça demande des moyens, ça demande du temps. Ça ne peut pas concerner non plus une population gigantesque. Donc évidemment, c'est pas les seules choses qu'on va mener, les petites actions qu'on va mener. Ça m'intéresse moi sur le plan artistique aussi. Mais bien entendu, on va aussi mener un travail, voilà, au quotidien, je dirais, pour que effectivement, la salle soit accessible aux handicapés. Ça, c'est quand même compliqué parce que nos escaliers ne facilitent pas. Pour les handicapés moteurs. Après, voilà, il y a plein de choses qu'il faut construire. On travaille sur le langage des signes, quand même, où il y a des représentations qui sont donc prévues pour que. Qui sont signées, voilà, régulièrement. On fait ce qu'on fait, on fait un certain nombre de choses. On est intervenu, on continue à intervenir à l'hôpital. Soit sur des gros projets, soit sur des choses qui sont, essayer de faire en sorte que les gens puissent venir ici et soit y travailler, soit y être spectateur. Voilà, mais le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, on se heurte vite à des questions de moyens. Voilà. C'est-à-dire que, et que ces moyens-là, étant donné que nos moyens n'augmentent pas, plutôt diminuent, ça devient un peu compliqué de les trouver. Je pense qu'en fait, ce travail-là, un peu comme ça, de gros projet, c'est une chose qu'on mènera plutôt tous les deux ans. Voilà, parce que ça me prend du temps, ne serait-ce d'ailleurs que de rencontrer les gens, de proposer le projet, de faire en sorte qu'ils se mobilisent dessus. Ça demande aussi beaucoup d'investissement, ce qui est aussi une chose difficile à obtenir. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui c'est compliqué de se dire qu'ils vont être là pour répéter, pour jouer sur un calendrier fixe. Les gens pour qui c'est presque impossible d'ailleurs. C'est compliqué, puis ça me mobilise beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas s'épuiser non plus à faire ça. Donc grosso modo, on s'est fixé ça, faire ça tous les deux ans. Il y aura pas cette année, il y aura l'année prochaine, puisque ça a eu lieu déjà en juin dernier. Voilà, bon. aura peut-être l'occasion d'en reparler, donc du coup,
à ce moment-là.
On va maintenant retrouver Sébastien Eglem, musicien intervenant, violoniste qui a travaillé avec Lionel Marchetti à la création d'une pièce pour violon et violon enregistré.
Donc Philomé Cantus, on joue avec le chœur et puis une flûtiste, Marie-Noël Glaser, une violoncelle dont j'ai oublié le nom. On a pu se croiser au CFMI, mais le chœur, je ne le connaissais pas, ils sont super bien. Très sérieusement, mais super bien. Donc ça serait... Voilà, on verra ça ce soir. Et sinon, on a passé un peu plus de temps avec Lionel, donc sur la créa. Donc, comment ça s'est passé? Toujours dans cette idée d'organiser cette journée et d'être présent et de dire « Ok, on y va ». Je crois que Lionel a proposé d'écrire une pièce pour l'occasion, qui pourrait servir derrière au répertoire et enfin à la collection Mom Ludi. Sachant qu'il avait envie de partir sur ce qu'il veut faire depuis pas mal de temps. Donc Lionel, pour rappel, Lionel Marchetti, il est compositeur électroacoustique, mais il est aussi déformateur au CFMI sur l'électroacoustique et sur tout ça. Ceux qui sont au CFMI aujourd'hui ont plus de chance que quand j'étais moi, parce qu'à l'époque c'était une option et maintenant c'est obligatoire de bosser avec Lionel, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais bon, Lionel il est plus électroacoustique, enfin il a une partie composition électroacoustique et puis une partie musique expérimentale en direct, en performance. Donc au CFMI il y est plus en tant que prof d'électroacoustique, enfin, sachant que prof c'est un grand mot, que compositeur qui vient expliquer une démarche et puis essayer de mettre les étudiants sur qu'ils puissent essayer au moins une fois dans leur vie de composer une pièce électroacoustique, donc tout ce que ça veut dire, et puis derrière continuer ou pas. Et donc Lionel il compose pas mal de choses, et là il a envie de plus en plus d'essayer de composer pour instruments et pas juste pour bande. Et du coup il a fait cette proposition là au CFMI, de profiter de cette soirée pour faire une pièce comme ça, instrumentale. Et du coup, je passais dans le couloir, je pense, au même moment où il parlait de ça, donc il m'a chopé en me demandant si je voulais bien essayer de faire un truc pour s'il pouvait essayer d'écrire quelque chose pour le violon. Donc forcément, je lui ai pas dit non, et nous voilà partis, donc on s'est retrouvés au CFMI il y a quelques temps. L'idée, c'était donc une pièce pour instruments et bande, quand même, parce que Lionel travaille essentiellement à partir de Revox. Donc on a fait deux sessions au CFMI et une session chez lui. Ça allait relativement vite dans le mode de travail, où l'idée c'était de partir d'un premier jet de violon qu'il a enregistré sur les Revox, sur des boucles de Revox. L'idée c'était de partir dans une unité de musique répétitive et de musique de boucle. Donc là on a fait une première boucle au violon qu'on a gardée, qu'ensuite on a épurée. On a essayé plein d'autres choses, il avait prévu des bandes des trucs pré-écrits qui venaient se mélanger, mais très rapidement on a enlevé cette matière et au final il reste donc que le violon et 5 bandes qui ont été faites avec le Revox de ce même violon, de cette même boucle, mais un petit peu modifié, mais très simplement. En gros, ça a été enregistré, mis sur une cassette et la cassette est lue avec un pitch à fond. Et donc il y a quasiment 5 fois, il y a un violon, plus une bande, plus un CD, plus 3 lecteurs cassettes. Et donc on est sur une pièce qui dure à peu près une quinzaine de minutes, sur quelque chose qui évolue très lentement. On est vraiment dans une logique de musique minimaliste, musique répétitive. Voilà. Et avec Lionel, donc ça allait très vite, parce que si ça marche, c'est que c'est bon signe, si ça marche pas, on va pas perdre de temps, donc on a travaillé comme ça. Voilà ce que je peux te dire. Et c'est super intéressant à jouer, parce que ça met vraiment dans un espèce d'état où vous l'écouterez ça soir, mais il n'y a pas grand-chose au niveau du violon. Il y a un son qui se transforme petit à petit et qui vient se faire parasiter par les 5 points. Donc il y a aussi tout un travail sur l'espace acoustique et sur l'effet que... Moi, j'ai pas pu l'écouter en face, parce qu'en le jouant, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, on perd vraiment... On ne sait plus si tous les sons sortent de mon violon ou sortent des enceintes. Enfin, on ne sait plus qui fait quoi, en fait. Donc c'est ce que cherche Lionel. Donc pour une première, il est assez content et du coup ça lui donne envie de continuer le travail avec d'autres instruments solo et petit à petit essayer de faire le même travail pour instruments, garder le support de cassette parce qu'il y a un grain suffisamment particulier qui l'intéresse et voir derrière comment il peut écrire un truc pour un petit orchestre de chambre, quoi. Donc la première c'est violon, il y en aura peut-être une avec Thierry du CFMI à la guitare électrique et puis peut-être avec d'autres violons. Et voilà. Tout ce que je peux en dire. Et je remercie bien Lionel. Voilà. Et l'idée, c'est après, quand même, c'est, vu que c'est une soirée Momudi, c'est de voir comment ce procédé-là peut être récupéré et remis en jeu pour des enfants et pour faire une pièce pour des scolaires. Quoi. Mais là, pour l'instant, c'est un violon et cinq bandes. Voilà.
C'était donc la création de Lionel Marchetti par Sébastien Hillem pour dispositif pour violon et violon enregistré. On va continuer ce reportage avec la rencontre de Lydie Chambert et Suzanne Desmoulins, deux musiciennes intervenantes à Saint-Étienne qui ont créé une pièce de Pascal Jakubowski.
Alors, moi je suis Lydie Dupuis-Chambert, je suis musicienne intervenante dans une équipe au Conservatoire de Saint-Étienne. Voilà, donc je suis accompagnée de Suzanne.
Voilà. Puis moi aussi, je travaille donc au Conservatoire Saint-Étienne en tant que musicienne intervenante et je suis clarinettiste. Voilà.
Et moi, je suis principalement batteuse et exceptionnellement, ce soir, je suis chef de chœur. Pour la première fois de ma vie.
Très bien. Et donc, vous allez interpréter une pièce qui s'appelle « Les coquillages éblouis ».
Oui. Donc, c'est une pièce qui a été écrite par Pascal Jakubowski. C'est une compositrice du Conservatoire de Saint-Étienne. Cette pièce a été commandée par les éditions Momludi et le CFMI, je ne sais plus dans quel ordre, à Pascal pour écrire une pièce pour les éditions. Et du coup, on a choisi aussi avec les musiciens intervenants de travailler avec elle. C'est tombé avec une de mes classes. Donc elle est venue une première fois voir les enfants. Nous, on avait déjà travaillé sur de l'harmonie, on avait déjà fait des petites choses autour des sons et des voix. Donc elle est partie de ce travail que j'avais déjà fait d'échauffement. Et puis elle est partie sur de la création de textes avec eux. Donc elle a pris plein de petites choses, elle en a fait un texte construit et elle a écrit toute la partition qu'on a travaillée en classe avec 27 enfants, je crois. Et qu'on a joué l'année dernière à Saint-Étienne. Et ce soir, on vient la présenter dans le cadre des éditions Momludi. Voilà. Et on la présente entre adultes.
C'est ça, c'est la particularité du concert de ce soir.
Ouais. Voilà, oui, c'est donc tous les musiciens en fait, qui sont là, ce sont les musiciens intervenants de la ville de Saint-Étienne et les chanteurs qui sont avec nous, donc une partie de chanteurs de Saint-Étienne et une partie de chanteurs du CFMI de Lyon. Voilà.
Tu veux parler peut-être du contenu, de ce que tu ressens de la pièce?
Eh bien, alors au début, j'avoue que c'était un peu difficile parce que, comment dire, l'écriture est... la partition paraît simple, mais en fait, quand on la joue tous ensemble et avec les chanteurs, elle n'est pas facile à mettre en place. Et au début, j'étais un peu déstabilisée par ça. Et puis bon, à force de la travailler, de l'écouter, de s'enregistrer, etc., on y rentre bien dedans. Enfin, maintenant, on se sent mieux. Enfin, moi, je me sens mieux dedans, personnellement. Et je la trouve, j'aime bien. Elle m'apporte quelque chose. Enfin, je sais pas. C'est beau comme musique.
C'est très poétique.
Ouais.
Donc c'est une pièce qui a quatre instrumentistes, deux flûtistes, une clarinettiste et une violoncelliste. Et après, un nombre de chanteurs pour ce soir. Trois hommes et trois femmes, donc c'est parfait. Et comment ça s'est passé la rencontre du coup avec Pascal Jakubowski? Donc vous l'avez rencontré en amont du coup de la création de la pièce avec vos élèves. Voilà, comment ça s'est passé pour vous?
C'était très bref et en même temps hyper efficace. Et, donc elle est venue sur une séance, je sais plus si on s'était rencontré avant, je crois pas. Et en fait, elle a vraiment, en une heure de temps, même pas, peut-être 45 minutes, elle a cerné ce qu'on avait fait. C'était simplement un travail d'harmonie, en plus, très simple, en fait, sur trois sons qu'on se faisait passer avec les enfants. Et donc, elle est partie de cette sonorité-là. Du coup, ça fait quelque chose de très poétique et de très mélodieux. C'est une partition contemporaine, mais qui est vraiment, vraiment accessible à tout public. Voilà, il y a une partie un peu plus free, on va dire, au milieu. Mais en même temps, elle est enveloppée par tout ce côté poétique du début à la fin. Donc, c'est très agréable à diriger, je pense, à jouer, à chanter et apparemment aussi à écouter. Ouais. Parce que les parents nous ont fait des bons retours l'année dernière.
Et avec les enfants, donc nous, on est allé répéter à peu près trois fois dans la classe l'année dernière. Voilà.
Et Pascal est revenu une fois. En gros, il nous a donné son accord pour nous dire qu'on était bien dans son univers.
Ce qu'elle voulait.
Et par rapport à la création contemporaine, dans le cadre des cours que vous avez avec vos élèves, est-ce que c'est un répertoire que vous explorez régulièrement ou ça reste un petit peu
Si, moi quand même, souvent. Enfin, j'essaye de m'en servir le plus souvent possible parce que je trouve que on aborde la musique différemment. Et pour les enfants, c'est quand même assez ludique. Alors, c'est vrai que c'est une façon plus simple d'aborder la musique, je dirais, au départ. C'est pas très compliqué pour eux, parce qu'on leur demande pas des choses compliquées. Et voilà, je pense que de ce côté-là, ça amène à faire des choses plus dures après. Mais au départ, avec des jeux vocaux, des choses comme ça, on peut faire plein de choses et on rentre en plein dedans dans la musique contemporaine.
Et moi, j'aime bien, sur toutes les classes, avoir au moins une classe par an avec qui je peux faire quelque chose comme ça. Que ce soit une pièce déjà écrite, une pièce qui demande de l'improvisation ou carrément une création. C'est enrichissant aussi en tant que musicien, je trouve. Ça permet d'élargir les horizons.
D'accord. Alors c'est vrai qu'après les esthétiques, on est tous différents, donc on ressent pas les choses de la même façon. Et c'est vrai qu'il y a des pièces qui nous apportent moins que d'autres, c'est évident. Mais bon, après ça c'est la sensibilité de chacun et chacune.
D'accord.
Très bien.
Ouais. Vous avez d'autres choses à rajouter?
Non, on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
Ouais.
Et ce soir, je trouve qu'on a une bonne équipe.
C'était chouette, la répétition.
Ouais.
C'était beau.
C'était sympa. On va prendre beaucoup de plaisir, je pense, à le refaire tout à l'heure.
Ouais. Et vous avez l'habitude de travailler tous ensemble ou...
Voilà, c'est la première fois. Moi, je suis montée sur scène, je connaissais pas tout le monde.
Nous non plus, on connaissait pas tout le monde. Donc voilà. Mais c'est très agréable de jouer avec des adultes, en fait.
Ouais.
Aussi.
Ouais, ça change.
Ça change, ouais.
Et donc, on va tout de suite écouter Les coquillages éblouis de Pascal Jakubowski par les musiciens intervenants de Saint-Étienne.
Oh. trouvez pas que
le vendeur de bonbons
admire les planètes.
J'en profite aussi pour vous signaler un concert avec Sébastien Aiglem et l'ensemble orchestral de la Fréta le samedi 29 septembre à la salle des 7 d'Hauteville dans le cadre du festival de l'éphémère. Cette émission en résonance sur Tropique FM s'achève. Merci à Simon Deborne qui a assuré toute la partie technique de ce reportage. Cette émission sera rediffusée le mardi à 13h et le jeudi à 16h. Les podcasts sont disponibles sur les sites de Tropique FM, tropiquefm.org, ainsi que sur le site de Résonance Contemporaine, résonancecontemporaine.org. Rendez-vous le 9 octobre pour la prochaine émission.